Alors, permettez-moi pour peut-être faire une transition entre cette introduction et mes propres propos, de vous lire en exergue un texte de Rilke qui me tout de suite rend un peu problématique mon approche. « Rien n'est moins capable, » écrit Rilke dans les lettres à un jeune poète, « rien n'est moins capable d'atteindre une œuvre d'art que des propos critiques. Il n'en résulte jamais que des malentendus plus ou moins heureux. Les choses, quelles qu'elles soient, sont moins saisissables et moins discibles qu'on ne voudrait la plupart du temps nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace où jamais un mot n'a pénétré. Et les plus indicibles de tous sont les œuvres d'art. Existence mystérieuse dont la vie, à côté de la nôtre, qui passe, est inscrite dans la durée. » Voilà. Alors évidemment, ça met tout de suite un peu en question le fait de tenir des propos critiques sur une musique, notamment celle de Stefano Gervasoni. Et j'aimerais peut-être, à travers cette petite conférence, essayer d'aider à écouter ce que Gervasoni a fait des œuvres de Rilke dans deux œuvres, en réalité dans deux cycles vocaux. Les Due Poesie et Francesig, dont on a déjà parlé, qui utilisent effectivement des textes de poètes étrangers qui écrivent en français. Donc il y a Ungaretti, il y a Rilke, Beckett, Luca, Gerasim Luca. Et puis, dans un autre cycle, les Aster Lieder, qui sont liés aux saisons, un texte de Rilke est utilisé comme premier poème, un texte sur l'automne. Voilà, donc c'est autour de ces œuvres que je vais me concentrer, mais peut-être un petit mot quant à l'utilisation des textes de Rilke par les musiciens. Il y a eu énormément de compositeurs qui ont eu recours à cette poésie très musicale, on peut le dire. Et évidemment, beaucoup, on peut les oublier parce que ce sont pas de très grands compositeurs, mais certains ont un nom, comme Dutilleux, comme Gubaidulina, comme Wolfgang Grimm, compositeur encore en activité. Et il faudrait signaler l'entreprise un peu folle de Philippe Fénelon, qui a mis en musique les élégies de Duino pour un chœur, un petit chœur. Mais j'aimerais peut-être signaler deux compositeurs qui me paraissent importants et qui ont été en partie contemporains de Rilke, c'est Schönberg et Webern, qui ont eu recours à ces textes à deux reprises. Schönberg dans un Lied isolé de 1909, Am Strande, et puis ensuite dans un cycle extrêmement intéressant qui est écrit pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, qui sont les Lieder opus 22, où il y a deux textes de Rilke qui sont utilisés, et c'est une œuvre tout à fait novatrice dans son esprit, dans la formation instrumentale utilisée. Et puis Webern a utilisé dans les carnets de Malte deux poèmes qui sont des poèmes d'amour en 1910, et ça coïncidait avec sa propre passion amoureuse pour celle qui allait devenir sa femme, et qui sont des Lieder opus 8, très intéressants aussi, qui sont de cette veine aphoristique et celle de Webern à cette époque-là. Des pièces qu'il a reprises plusieurs fois, puisque au début il avait imaginé un orchestre d'une quarantaine de musiciens, et puis il a fait beaucoup de révisions pour finir par une réduction à 8 musiciens. Ce sont de très belles œuvres, toutes qui sont tout à fait à la hauteur de la poésie de Rilke, je trouve. Voilà, alors Rilke et la musique, c'est pas le sujet que je vais traiter, parce que d'abord je ne serai pas compétent, mais je voudrais quand même signaler le fait que pour Rilke, dont on connaît les écrits sur Rodin, sur Cézanne, et son goût pour la peinture, bien entendu, avait quand même un certain problème avec la musique, quelle que soit la musicalité de sa langue, et c'est un cas qu'on retrouve chez certains écrivains ou poètes, la musique oppose une relative résistance, même s'il y a musicalité de la langue. Et dans un texte de jeunesse, hein, parce que les journaux de jeunesse, il le signale, celui qui parle d'art, écrit-il, entend par là nécessairement les arts, car ils sont les modes d'expression d'une seule et même langue. Seule la musique refuse de s'inscrire dans cette réflexion d'ensemble. Je n'ai jamais trouvé le chemin pour l'approcher. Alors, c'est le jeune Rilke, hein, donc bien sûr. Je crois néanmoins que sa situation est essentiellement différente de celle des autres arts. Le compositeur n'a pas à intégrer ses aveux dans le quotidien. Il dispense dans la délivrance des sons des possibilités endormies que seul celui qui détient la formule magique peut révéler pour en tirer de la joie et une fête. Alors je trouve que cette dernière phrase correspond assez bien à l'entreprise de Stefano Gervasoni. Et voilà, donc vous voyez que j'essaye de mettre un peu en perspective la chose. Alors, j'imagine que peu d'entre vous connaissent la musique de Stefano Gervasoni, qui est né au début des années 1960, et qui donc est en pleine activité. Et j'aimerais peut-être commencer par le situer dans le paysage contemporain pour que on sache un petit peu de quoi on parle. La génération à laquelle il appartient est une génération qui a déjà trouvé à son point de départ une situation musicale qui avait beaucoup évolué depuis la Deuxième Guerre. Il y avait une histoire de la musique contemporaine et un vaste répertoire qui était déjà à disposition, et donc la situation des compositeurs de cette génération est radicalement différente de celle des compositeurs qui sont arrivés précisément juste après la Deuxième Guerre. Grosso modo, ce sont des compositeurs qui ont commencé à publier, à faire jouer des œuvres dans le début des années 1980. Alors il y avait 30 ans d'histoire, 40 ans d'histoire même à disposition. Et il faut peut-être rappeler que dans les années fin 40, les années 50, la grande génération qui maintenant est presque entièrement disparue, celle des Boulez, Stockhausen, Nono, Ligeti, etc., cette génération a profondément repensé le phénomène musical et cherché à reconstruire véritablement un langage à neuf, pour des raisons qui étaient pas seulement des raisons musicales, esthétiques, mais aussi des raisons morales et éthiques, parce qu'après la Deuxième Guerre, qu'on pourrait symboliser avec deux noms de villes, Auschwitz et Hiroshima, les illusions de l'humanisme n'avaient plus cours et la naïveté n'était plus permise. Et il fallait donc faire des choix assez radicaux, assez drastiques à cette époque-là. Et le choix, qui était un choix de pureté quelque part, sur un plan intellectuel, spirituel, esthétique, a été celui de reconstruire le langage musical et de mettre une certaine distance avec une tradition qui avait finalement failli dans la période de la guerre et dans l'avènement du nazisme. Et dans cette optique-là, il y a eu un rejet absolument total de toute l'esthétique néoclassique qui avait dominé l'entre-deux-guerres et qui a été mise complètement de côté. Et certains compositeurs sont restés des références, tels que les compositeurs de l'école de Vienne, Stravinsky, Bartok, voilà, quelques-uns, Varèse. Et c'est à partir de cet héritage-là que ces compositeurs ont cherché à reconstruire véritablement un langage dans lequel le compositeur serait responsable de chaque note, dans lequel chaque note aurait quelque chose à dire, aurait une fonction, une place déterminée. Et évidemment, ça bridait un tout petit peu la spontanéité et même, je dirais, la mémoire. Alors, cette période qui s'est étendue, évidemment, qui a continué, mais à partir des années 60, les compositeurs ont pris des chemins individuels, a été cette optique, disons, a été contestée, évidemment, dès l'arrivée de la génération suivante, dans les années 60. Et a donné lieu à des mouvements, comme souvent dans l'histoire de l'art, de réaction vers plus de spontanéité, vers plus d'hétérogénéité, de mélange de styles de musique, d'expérimentation tous azimuts, ce qui a évidemment complexifié la situation. Et peu après sont arrivés des courants musicaux qui précèdent donc l'avènement de la génération de Gervasoni. Et ces courants musicaux, curieusement, ils sont un peu rattachés à des pays, alors que la musique contemporaine, disons de l'après-deuxième guerre, était une musique qui se voulait absolument universaliste, une langue qui ne dépendait plus des nationalités. ces courants, j'en cite quelques-uns. Il y a le minimalisme américain, la musique, ce qu'on appelle aussi la musique répétitive, qui est un phénomène tout à fait américain et puis plus largement anglo-saxon. Il y a eu le courant de la musique spectrale en France, qui est un mouvement vraiment très typiquement français, qui s'est beaucoup prolongé et étendu ensuite. Il y a eu un mouvement de néo-romantisme, de retour à la tonalité, qui s'est fait beaucoup en Allemagne et en Italie. Il y a eu, un peu après, la prise de connaissance de toute la musique des compositeurs soviétiques qui avaient lutté contre la censure et le réalisme socialiste, des gens justement comme Gubaidulina, que je citais tout à l'heure, qui ont commencé à être connus en Occident. Et puis, il y a parmi tous ces différents mouvements qui étaient au fond l'héritage de la génération de Gervasoni, eh bien, il y a trois compositeurs que je relèverai qui ont cherché à développer une pensée du son, une pensée du matériau qui allait bien au-delà de ce que le sérialisme avait pu apporter dans un premier temps et bien au-delà aussi de toutes les considérations de retour à la tonalité ou de retour aux formes traditionnelles. Ces trois compositeurs, il y en a un qui est allemand, c'est Helmut Lachenmann, un autre qui est suisse, c'est Heinz Holliger, et un troisième qui est italien, c'est Cherino, Salvatore Cherino. Et ces trois compositeurs se sont mis en quelque sorte en rupture avec un certain courant central de la musique contemporaine et ont commencé d'expérimenter un monde sonore nouveau qui comportait, qui imposait des modes de jeu particuliers aux instrumentistes sur les différents instruments, découvertes de capacités de faire plusieurs sons, ce qu'on appelle des multiphoniques sur des instruments monodiques, comme la clarinette, la flûte ou le basson, possibilité de jouer sur d'autres parties de l'instrument, par exemple les instruments à cordes avec l'archet sur le corps de l'instrument pour faire des sons particuliers, utilisation maximale de tous les modes de jeu, de toutes les couleurs instrumentales qu'il est possible de faire, et donc de renverser en quelque sorte la hiérarchie qui avait existé jusque-là et de considérer que ce sont les sonorités en tant que telles qui doivent être la chose principale et non la hauteur des sons qui parfois disparaissaient d'ailleurs du paysage, non pas une combinatoire de notes, mais un travail sur la sonorité et donc aussi sur le geste qui produit la sonorité, sur l'énergie qui est à la source de cette sonorité. Si bien que ces compositeurs ont déplacé passablement la frontière qui existait entre le son musical et le bruit, hein, si vous voulez. Alors évidemment, ils sont aussi héritiers eux-mêmes de toute l'aventure qui s'est faite autour des moyens électroacoustiques et qui avait commencé aussi juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà une espèce de petit tableau, je vais faire extrêmement rapide, hein, qui est un peu simplificateur, mais histoire de montrer où se situe la génération de Stefano Gervasoni. Or, parmi les compositeurs de cette génération, on voit évidemment un spectre assez large d'esthétique, de mode d'écriture, et on voit que les compositeurs qui sont arrivés à maturité dans les années 80 avaient à leur disposition tout un répertoire de techniques, de styles, d'esthétiques, dans lesquelles ils pouvaient puiser. Dans le meilleur des cas, cela a pu donner des sortes de synthèses, c'est-à-dire de rassembler différents éléments pour en faire un langage personnel. Dans d'autres cas, cela a donné un peu d'épigonisme. On reprend des formules qui venaient de tel ou tel compositeur pour les pousser plus avant. Mais d'une façon globale, générale, on peut dire que dans ces années 80, la plupart des compositeurs ont cherché à reconquérir une certaine spontanéité, une certaine communication avec le public, à retrouver le sens des grandes formes et d'une musique qu'il est plus facile d'écouter que les musiques historiques des années 50, qui étaient effectivement assez austères par moments, assez rudes d'une certaine façon. Et dans ce paysage-là, il faut aussi tenir compte du fait que dans les années 1980, la musique contemporaine est quelque peu sortie de sa marginalité au profit d'une meilleure implantation, disons, à l'intérieur de la société, grâce à la multiplication des ensembles de musique contemporaine qui, à travers toute l'Europe, ont commencé à proliférer, grâce à un certain nombre de festivals qui se sont démultipliés pour la musique contemporaine, et aussi grâce au fait que, petit à petit, il y avait, dans les certaines institutions, l'intérêt pour l'intégration d'œuvres plus contemporaines. Ça coïncide un petit peu avec l'avènement de Pierre Boulez, grand chef d'orchestre international, que s'arrachent les plus grands orchestres à travers le monde entier. Donc il y a eu un changement de statut, si on veut, de cette musique. Alors, dans cette optique, on a eu des musiques beaucoup plus opulentes, beaucoup plus spontanées et plus évidentes par certains côtés. Et Stefano Gervasoni, dans ce contexte, occupe une place qui est une place un peu à part, parce que précisément, il n'a pas fait ce choix-là. Il a creusé son propre sillon d'une façon très indépendante, sans doute en partant de cette sensibilité au son qu'on trouvait chez Lachenmann, chez Holliger, chez Chiarino, donc ces compositeurs que j'ai cités tout à l'heure, et en visant plutôt une communication extrêmement intimiste avec le public, en ne cherchant pas à faire des effets et à obtenir ce qu'on pourrait appeler une sorte de rendement de la musique contemporaine. Donc en ne cherchant pas à construire des sonorités brillantes qui vont époustoufler le public, mais au contraire en se concentrant sur des événements sonores qui sont plutôt rares et qui sont parfois très minimalistes. Alors c'est une voix assez particulière et elle est, je l'ai dit, redevable un petit peu des compositeurs que j'ai cités, mais pas tant que ça en définitive, parce qu'il y a une originalité dans la démarche qui le démarque totalement de ses compositeurs. Et pour dire très vite, il n'y a pas chez lui cette espèce de méfiance vis-à-vis d'une beauté sonore qui pourrait être perçue comme quelque chose de facile à récupérer, de trop conventionnel, qui est une posture chez Helmut Lachenmann qui cherche à montrer l'envers des choses, l'envers du décor, l'envers du beau son philharmonique, comme il le dit souvent, pour montrer ce qu'il y a dans la réalité et qui est caché par une certaine forme de beauté dont il se méfie. On ne trouve pas du tout cette attitude chez Stefano Gervasoni, dont la musique sonne merveilleusement bien et est en effet très belle, on peut le dire objectivement. Il n'y a pas non plus ce travail qu'on trouvait chez Heinz Holliger, qui est de pousser l'expression au-delà de ses limites, dans une espèce de veine expressionniste, et d'essayer de mettre en jeu la subjectivité jusqu'à presque au niveau de la folie, de la déraison. On ne trouve pas du tout cette espèce d'excroissance expressive dans sa musique. Et on ne trouve pas non plus ce que j'appellerais une certaine forme de maniérisme chez Chiarino, l'utilisation de ces sons rares, étranges, inhabituels, sous une forme qui est une forme un peu formaliste, on va dire, une façon de jouer avec ces objets rares et d'écrire des œuvres qui se renouvellent assez peu, on va dire, et qui vraiment, je trouve que le terme de maniérisme est celui qui lui convient le mieux. Il n'y a pas du tout cette idée-là. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans son œuvre, c'est que précisément, Gervasoni essaye à la fois de découvrir des territoires sonores nouveaux, mais de les doter d'une signification qui est à la fois individuelle, qui est l'expression du sujet, mais qui est en même temps une sorte de façon de se positionner vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la réalité. Et donc c'est une musique qui possède beaucoup de profondeur malgré son apparence, qui est une apparence parfois un peu ténue, fragile, beaucoup de profondeur parce qu'il y a beaucoup de significations qui sont encloses dans les sons. Une signification qui est à la fois musicale, tout simplement, c'est la relation des sons, c'est la construction du discours musical, mais aussi des significations qui sont expressives. C'est une musique qui est fortement expressive, mais à sa manière, que je vais essayer de définir plus ou moins. Et puis, c'est une musique qui se confronte à des problématiques de notre temps, à la mémoire de certains faits historiques, à la réalité dans laquelle nous vivons et qui essaye de s'en emparer et de le dire à travers les sons, à travers la musique elle-même. Pas évidemment comme un programme, ni comme une espèce d'intention qui serait une forme d'engagement, on va dire, mais à l'intérieur même du processus musical. C'est ainsi que dans, pour prendre ce sujet-là, c'est ainsi que dans certaines de ses œuvres, il s'est par exemple confronté à la mémoire de la Shoah, on va dire d'une façon très générale, notamment à travers un poème de Celan, dans deux œuvres qui sont jumelles en quelque sorte, qui utilisent le même matériau mais qui ne sont pas écrites pour la même formation, et où cette relation avec ce moment tragique de l'histoire est connecté avec un matériau qui à la base est tiré d'une pièce de Schumann dont le titre évidemment est significatif par lui-même puisque c'est Warum, pourquoi. Et ces deux pièces jumelles, un trio à cordes au titre imprononçable et une pièce qui s'appelle Atemseil, qui est le titre du poème de Celan, eh bien, il y a une espèce de ton rituel, une espèce de forme de cérémonie. On a le sentiment que la musique n'avance pas beaucoup. C'est un sentiment qu'on éprouve parfois dans ses œuvres, qu'on tourne sur soi-même. Et en réalité, c'est précisément par ce moyen-là, par cette façon presque rituelle de construire la forme, qu'il y a en close la signification, la réaction, l'émotion, l'expressivité liée au sujet historique. Et donc, tout ça est assez ténu, parce que si je ne vous le dis pas, à la limite, ça n'apparaît pas en tant que tel, il n'y a pas un programme affiché en tant que tel. Voilà un exemple, par exemple, de cette préoccupation pour l'élément sémantique. Et toute son œuvre, donc, est construite à partir d'une recherche d'un monde sonore nouveau qui ne serait pas oublieux de la mémoire, du passé, de la relation, d'une certaine relation à la tradition. Beaucoup de ses œuvres, comme ces deux œuvres que je viens de citer, font appel à des sortes de citations qui sont plus ou moins voilées, parce que la citation de Schumann, si on ne vous l'indique pas, il y a de fortes chances que vous n'y fassiez pas attention. Dans certaines œuvres, c'est plus évident. Par exemple, vous avez un quatuor à cordes dans lequel on a une citation d'un Richard Carr et de Frescobaldi. Et là, on entend très bien cette musique de Frescobaldi qui apparaît, mais qui apparaît derrière un voile qui est fait de sonorités glissantes, de sonorités contemporaines, hein, en quelque sorte, si bien qu'il y a une sorte de tension, d'articulation entre l'objet de la mémoire et la musique de notre temps. Et que le passé n'est pas rétabli dans son intégrité, il n'est pas ramené à la surface de façon nostalgique, comme un désir de se replonger dans ce moment-là, mais il est vraiment vu à travers quelque chose qui le déforme en partie et qui nous montre qu'à la fois il est là et qu'il est inaccessible et que ce dont il parle est déjà passé et en même temps peut rester encore présent. Donc cette espèce d'appréhension un peu contradictoire d'une réalité que on peut à la fois saisir et qu'on ne peut plus saisir. Et on retrouve ça dans plusieurs de ces pièces. Il y en a une autre où on voit émerger un choral de Bach, mais là aussi extrêmement allusif et extrêmement déformé, si bien que il y a d'une façon générale dans son œuvre un dialogue qui reste toujours présent avec ces éléments de mémoire. Et ça l'a amené à réintroduire, enfin je ne sais pas si c'est ça qui l'a amené, mais ça va avec l'idée de briser en quelque sorte certains tabous de la musique contemporaine, qui est notamment le tabou de la consonance. Hein. Alors la consonance, c'est les intervalles simples, les accords simples sur lesquels on a fondé une grande partie de notre histoire de la musique. Et il faut évidemment des dissonances pour les animer un peu de l'intérieur, mais comme vous savez, pendant longtemps, les dissonances devaient se résoudre sur des consonances, c'est-à-dire les tensions sur des résolutions. Et puis l'histoire de la musique, on pourrait l'écrire enfin un peu grossièrement, comme une progression dans l'acceptation de dissonances qui deviennent plus ou moins consonances ou véritablement consonances, jusqu'au point où on accepte que tous les intervalles, tous les accords, finalement, sont sur un même pied d'égalité et qu'il n'y a plus ce jeu de la consonance et de la dissonance. Alors, il disparaît pas, bien sûr, parce que le rapport de tension, détente, se fait par d'autres moyens, d'une autre façon. Mais il ne se fait plus forcément avec le matériau des notes qui a été exploré de fond en comble jusqu'à la fin du XXe siècle. Et dans la musique de Gervasoni, vous avez très souvent des moments où on a des sons purs, on va dire, des intervalles purs, comme l'octave, la quinte, voilà, qu'on a cherché à éviter pendant longtemps dans la musique contemporaine, ou des accords parfaits qui nous rappellent un temps qui est un temps révolu, mais qui est en même temps présent dans notre conscience et dans notre mémoire. Et il y a une articulation toujours dans sa musique entre ces moments où on a des sons totalement inouïs, qu'on n'avait pas imaginé auparavant, et ces objets plus connus qui apparaissent comme quelque chose qui donne une certaine profondeur aussi à notre écoute, hein, qui nous rattache à une certaine histoire. Donc on a chez lui cet élément, si vous voulez, qui est à la fois esthétique, mais qui est en même temps sémantique, où on a vraiment un élément de signification qui est purement musical, qui transparaît à travers l'écriture elle-même. Voilà, ça c'est un premier élément. L'autre élément qui est très frappant dans sa musique, c'est la concentration sur des événements extrêmement ténus, sur quelque chose qui est peut-être trop petit pour qu'on le remarque tout de suite, qui sont des toutes petites modifications, des toutes petites intentions, quelque chose qui est extrêmement fin, subtil, et qu'il faut aller chercher en quelque sorte, parce que ça ne se donne pas à entendre de façon spectaculaire. C'est vraiment le mot spectaculaire, est vraiment le mot qui convient le moins à la musique de Stefano Gervasoni. Et cette espèce de minimalisme à sa manière est une chose que les quelques commentateurs de sa musique ont tous relevé comme étant spécifique, qui demande une attention, une écoute particulière. Et en quelque sorte, cela provient du fait que Gervasoni a essayé de ne pas tenir un discours musical où ce seraient les contours eux-mêmes qui feraient l'information principale de la musique, où on aurait une sorte de narration musicale, hein, en quelque sorte, qui nous conduirait d'un point jusqu'à un autre, mais au contraire, il nous impose de rentrer à l'intérieur du phénomène musical, de rentrer dans les sons pour percevoir non seulement leur complexité, leur richesse interne, mais aussi percevoir tout ce qui se croise à l'intérieur d'eux et le type de relation qu'ils peuvent entretenir les uns avec les autres. Donc, ça suppose un changement de presque de focal, si on pouvait utiliser ce terme, au niveau de l'écoute, une mise en perspective de l'écoute qui est totalement différente d'une écoute, disons, ordinaire. Et je vais un peu insister sur cette idée-là. D'ailleurs, ça m'évoque une remarque de Rilke dans une lettre qu'il envoie à Clara, lorsqu'il parle du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, et où il dit que lorsque ce peintre qui va ruiner sa famille à la recherche d'une espèce d'absolu découvre que les contours n'existent pas, que seule existe la vibration de la transitivité. Ce serait une bonne manière d'introduire à la musique de Gervasoni. Et en effet, c'est la vibration de ce qui est transitoire, de ce qui passe, de ce qui est éphémère, qui fait l'objet de cette musique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'aller à l'intérieur des sons et d'essayer de montrer la complexité au fond du phénomène sonore? Eh bien, c'est l'idée que, au lieu que le son soit au service d'une structure qu'on va dire supérieure, un thème, une phrase musicale, donc qui rassemble un certain nombre de notes et qui est perçu comme un objet en tant que tel. C'est une phrase, c'est un thème et il a une identité qu'on va pouvoir suivre tout au long d'un morceau, et voilà, il y aura quelques péripéties, et dans la musique classique, comme vous savez, à la fin, un rétablissement de cette identité première, puisqu'on réexpose, on reprend l'idée musicale telle qu'elle était apparue la première fois. Au lieu d'avoir ce phénomène-là, le son en soi devient l'événement. Et donc on descend, si vous voulez, en dessous du niveau dans lequel on a l'habitude de se trouver en écoutant de la musique classique, et on va au niveau du matériau lui-même, on va au niveau du son. Et alors, ça veut dire que ce son, pour être intéressant, pour avoir cette qualité de vibration, il faut le composer. On ne peut pas se contenter de le prendre tel qu'il nous est donné par les instruments, par la théorie musicale, mais il faut le composer et lui donner une certaine richesse interne, une certaine complexité, une certaine ambiguïté, on va dire, qui va non seulement permettre de l'apprécier, de le vivre en tant que tel au niveau de l'écoute, mais aussi qui va déterminer les relations qu'il va créer avec les sons suivants. Et donc on a dans cette optique des sons qui exigent souvent un travail sur le timbre, c'est-à-dire sur la couleur du son. Hein, c'est le terme allemand Klangfarbe, c'est la couleur du son. En français, on a le mot timbre, c'est-à-dire cet aspect phénoménologique, on va dire, du son tel qu'on le perçoit comme phénomène acoustique. Et ce travail, ça voudra dire, par exemple, de mêler plusieurs sons qui sont très proches les uns des autres, mais entre lesquels il y a un certain écart, une minuscule distance qui vont les permettre de créer une sorte de vibration. Ça veut dire aussi d'utiliser des techniques de jeu ou des modes de jeu qui vont permettre au son d'avoir son individualité, sa personnalité. On va jouer un violon en son harmonique ou sur le chevalet sous le Ponticello qui va transformer la sonorité, ou on va jouer sur le pizzicato, ou on va jouer sur la dynamique qui sera soit évolutive, soit au contraire statique, soit au bord de l'inaudible, etc. Il y a donc tout un ensemble de procédures qui vont permettre à ce son de devenir un élément vivant en tant que tel. Et donc, effectivement, dans cette musique, on n'a plus véritablement des thèmes qui englobent toute une série de tout un matériau sonore, mais on a soit des sons individuels, soit plus exactement des sortes de petites figures qui vont nous permettre d'apprécier la qualité de ces sonorités. Alors, évidemment, se pose le problème dans ce genre de musique, parce que c'est pas quelque chose de totalement nouveau de la part de Charles Zoli, mais c'est une façon d'aller plus loin dans une tendance qui a marqué la musique du XXe siècle dans son ensemble, mais qui est une tendance qui est parallèle à celle qui continuait la pensée traditionnelle. Peut-être, petite parenthèse à ce sujet-là, façon de penser la musique à partir de la sonorité elle-même, on pourrait dire elle commence bien avant, mais elle commence véritablement de façon consciente avec Debussy, hein, qui est le premier compositeur qui modifie de fond en comble la texture de la musique, la forme du discours musical, en s'intéressant plus aux sons pour eux-mêmes qu'aux fonctions que ces sons pouvaient avoir dans les formes traditionnelles, et où effectivement on voit que les thèmes mélodiques ou les éléments mélodiques sont parfois difficiles à saisir en tant qu'éléments mélodiques. Hein. C'est la célèbre remarque de Richard Strauss écoutant Péléas et Mélisande et se penchant vers Romain Rolland pour lui dire « C'est toujours comme ça, il n'y a jamais de mélodie dans cet opéra au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure. Hein. » Donc cette chose qui a était difficile à saisir pour les contemporains de Debussy, mais aussi cette libération d'une harmonie fonctionnelle traditionnellement tonale au profit d'un enchaînement d'accords par affinité entre les sons. Et donc toute cette rhétorique qui va découler de cela, qui amène un certain statisme, on va dire, dans la forme musicale, hein, ce qu'on a beaucoup reproché à Debussy, soit le côté statique, soit le côté décoratif. C'est pas pour les Allemands à l'époque, qui était dans la tradition, la grande tradition germanique, Oui, c'est une jolie musique, mais un petit peu décorative, un peu papier peint, pas avec la profondeur qu'on attend quand on est dans la lignée Beethoven, Wagner, Brahms. Hein. Voilà, alors c'est Debussy qui a été peut-être l'initiateur, mais on voit la même préoccupation chez les Viennois dans la période qui est avant la Première Guerre, chez Webern, chez Schönberg, où on essaye de travailler avec des couleurs de son. On pourrait prendre comme exemple les Bagatelles opus 9 de Webern pour quatuor à cordes. Ce serait un exemple où le discours musical est pulvérisé et finalement un son, deux sons finissent par former toute une phrase. Et comme l'avait dit Schönberg en préface, il y a tout un roman dans un seul souffle. Hein. Donc une façon de condenser en quelque sorte la forme musicale. Et puis ensuite, on voit quand même, si chez Stravinsky aussi il y a un intérêt évidemment très important pour la sonorité en tant que telle, on va retrouver cet effort de construire le langage musical sur du sonore avec quelqu'un comme Varèse dans les années 20 et 30, un peu isolé d'ailleurs dans ces années 20 et 30 à ce titre-là. Voilà, alors il y a toute une tradition qui a abouti finalement au compositeur que j'ai cité tout à l'heure, la Hermann Holliger, Cherino, et dont Gervasoni est un prolongement et une voix singulière. Donc dans toutes ces musiques, on remarque que l'un des problèmes, c'est le problème de la continuité. Parce que lorsqu'il y a une attention très grande sur le moment, sur l'instant, sur une sonorité qui dure un certain temps ou sur une petite figure qui se répète, eh bien, on perd le sens de la trajectoire. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une musique qui apparaît immobile, statique, on a l'impression que le temps ne passe pas et que l'on n'avance pas, surtout qu'il n'y a plus de tension à grande échelle. C'est un problème, comme je l'ai dit, qu'on trouve déjà chez Debussy et qu'on va trouver chez les compositeurs que j'ai cités. À titre d'exemple, un des grands problèmes de Varèse, c'est de construire des formes. Il fait des formes courtes et comment y s'en tire ? Il répète les mêmes éléments de façon incantatoire avant de passer à un deuxième élément qu'il va lui aussi répéter. Et donc, on a le sentiment que il y a une difficulté à construire véritablement une forme architectonique, disons, hein, ou dramatique. Alors, c'est un problème qui est très intéressant dans la musique de Stefano Gervasoni et qui sans doute fait parfois la difficulté pour l'écoute de cette musique, c'est que vous n'avez pas quelque chose qui vous conduit, qui vous emporte à la manière wagnérienne, d'un point à un autre de la forme. Il n'y a pas de but d'aboutissement qui est visé. Au fond, le début est un peu arbitraire, on est tout à coup dans le son, et la fin sera en partie aussi arbitraire. À un moment donné, le processus s'arrête. Bon, à vrai dire, c'est une conception qu'on trouve dans beaucoup de civilisations musicales très anciennes, en Asie, en Afrique. La notion d'une forme qui se referme sur elle-même est une notion typiquement occidentale. Mais comment se déroule alors cette construction de la forme? Eh bien, chez Gervasoni, très souvent par le phénomène de la répétition, par le fait que les mêmes éléments sont répétés. Alors, à première vue, ou à première écoute plus exactement, on va se dire « Ah, mais c'est toujours la même chose ». Il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Alors, manque d'imagination chez le compositeur. Eh bien, non, justement pas. Mais la répétition est là précisément pour permettre à l'auditeur d'entrer à l'intérieur des textures. Parce que si les textures se renouvellent constamment, comme ce fut le cas dans les musiques des années 50, par exemple, où il y avait une débauche de structures qui était en perpétuelle transformation, renouvellement. Au bout d'un moment, là, vous avez l'impression que c'est toujours pareil parce que c'est toujours différent. Il y a donc un seuil psychologique qui fait que si vous répétez trop quelque chose sans le modifier, c'est ennuyeux parce que ça n'évolue pas. Si vous changez constamment, c'est ennuyeux parce que on n'a plus de repères. Alors, il faut trouver le chemin entre les deux. Alors, celui de Gervasoni, c'est de répéter, en effet, et vous avez une couche de surface qui peut vous sembler souvent la même chose qui se perpétue. Ça peut être la même structure sonore, ça peut être le même geste, les mêmes éléments. Mais en réalité, il y a tout un travail à l'intérieur qui est un travail extrêmement profond et complexe et qui va nous obliger à précisément rentrer à l'intérieur des textures, de façon à pouvoir percevoir ces changements infinitésimaux qui se font à l'intérieur, et on s'aperçoit alors que rien n'est jamais pareil en réalité, parce que tout ce qui revient comme semblable comporte toujours un élément de différence. Et qu'il y a des événements qui apparaissent petit à petit, qui sont très conséquents, qui sont tirés du matériau de départ, et qui vont nous conduire finalement à la fin d'un processus, quand il y a épuisement peut-être des possibilités de la combinatoire, ou dans le cas d'une mise en musique d'un poème, on arrive à la fin du poème, tout simplement. Et donc, ça suppose d'avoir une écoute extrêmement aiguë, aiguisée, attentive, et de pas chercher l'événement extérieur, mais de chercher la chose qui est à l'intérieur. Alors ça, on pourrait apparenter cela, d'une certaine façon, ça nous ramènerait un petit peu du côté de Rilke, à un élément de contemplation. Lorsqu'on est face à un paysage, face à un élément de nature, la nature joue un rôle très important dans la musique de Gervasoni, et le son est finalement un phénomène de nature, si on peut dire, en tant que phénomène acoustique, eh bien, lorsqu'on est en contemplation devant un paysage, évidemment, on peut le regarder rapidement et dire « bon, ben voilà, oui, c'est beau, il y a des montagnes, il y a ci, il y a ça ». Et puis, on peut se laisser absorber dans le paysage, en prenant peut-être même conseil des vieux peintres chinois qui prétendaient que peindre ce que l'on voit est banal, c'est un effet de la technique, mais peindre ce qu'il y a à l'intérieur d'un paysage, ce qui est derrière le visible, ça, c'est le travail du grand maître, et ça suppose de se laisser absorber par ce paysage, de rentrer à l'intérieur et de se rendre compte, finalement, petit à petit, la perception s'ouvre et permet de faire apparaître toute une variété d'éléments qu'on avait vus globalement dans un premier temps et qu'on va voir d'une façon totalement différente ensuite. Donc, c'est évidemment ce grand modèle de la nature qui est peut-être derrière cette forme d'esthétique, cette capacité d'immobiliser grossièrement les événements pour pouvoir percevoir tout ce qui se passe à l'intérieur, toutes les forces, toutes les énergies, toutes les différenciations qui se font et qui sont amenées par le temps, tout simplement, par le passage du temps. Alors, là, on a un paradoxe qui est intéressant parce que lorsqu'on écoute superficiellement, on a le sentiment que le temps est immobile, que rien ne se passe, en quelque sorte, qu'on est à l'arrêt. Et en réalité, c'est justement une musique qui est construite sur le fait que le temps ne cesse de transformer les objets. Mais on est là au ralenti, c'est-à-dire que on regarde avec une telle attention, une telle précision, que on n'a pas un regard panoramique, hein, si je puis dire. Et c'est là où on va pouvoir percevoir cette espèce de transformation sous-jacente qui se fait continuellement et qui est effectivement le travail du temps. Et c'est un temps qui n'est plus un temps psychologique, qui n'est plus un temps de la représentation, qui n'est plus le temps d'une histoire qu'on raconte, d'un sujet qu'on expose, mais c'est un temps qui est le temps du phénomène. Et c'est un autre aspect qui est intéressant dans la musique de Gervasoni, c'est qu'elle est fondée sur des durées qui sont des durées vécues et non pas des durées, construites de façon abstraite. Il n'y a pas de mesure régulière, il n'y a pas des temps forts et des temps faibles, pour prendre des exemples dans le passé. Il n'y a pas non plus une rythmique fondée sur la pulsation, comme chez Stravinsky et d'autres compositeurs qui l'ont suivi. Mais le phénomène prend le temps qu'il faut pour qu'on puisse l'observer, pour qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse vibrer à l'unisson avec lui, hein, en quelque sorte. Et c'est là où se situe l'expressivité, c'est-à-dire que c'est cette espèce de vibration du phénomène, cette pulsation du phénomène, cette espèce de souffle, on va dire, de respiration du phénomène qui va être l'élément expressif et auquel on peut s'identifier d'une certaine façon. Enfin, on peut respirer, on peut vibrer avec cette vibration et avec cette respiration. Et c'est là où il y a expressivité, mais c'est plus une expressivité qui renvoie à des affects bien déterminés. C'est une expressivité qui est affective, mais qui ne représente pas des affects. Ouais, c'est toujours très difficile de trouver les mots pour dire des choses qu'on pourrait ressentir facilement. Mais elle est affective parce qu'elle nous touche, parce qu'elle met en branle le corps, parce qu'elle émeut, mais elle n'est pas une représentation d'un état d'âme, d'un affect, d'un sentiment précis, si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Alors, on est évidemment dans une esthétique du paradoxe, de l'ambiguïté, qui est le lieu de la créativité, en réalité, qui est cet espace un peu vague, un peu indéterminé, dans lequel les choses ne sont pas fixées une fois pour toutes. Et on pourrait dire que, effectivement, la musique de Gervasoni est une musique qui refuse la fixation. Et c'est toujours un paradoxe, parce que la répétition va vous donner exactement l'impression contraire dans un premier temps. Elle refuse la fixation, tout est toujours en mouvement, mais des mouvements très ténus, évidemment, qui exigent notre attention. Et c'est à ce prix que la musique est expressive, bien sûr. Alors, cette écoute, on a une écoute qui est souvent paresseuse aujourd'hui, non seulement parce qu'on est abreuvé de musique sans intérêt, qui sont dans tous les lieux publics et partout, mais parce qu'on a finalement tendance à écouter la musique superficiellement, la musique qu'on connaît trop bien en plus, hein, quand on va dans les salles de concert, ça se remarque d'ailleurs, quand on regarde un peu le public, une écoute qui est une écoute peut-être de reconnaissance, plutôt qu'une écoute qui viserait à saisir les processus qui sont à l'œuvre dans le morceau que l'on entend. Et évidemment, la musique contemporaine met en crise cette forme d'écoute paresseuse parce qu'elle oblige à écouter, tout simplement parce que les significations, pas plus que les émotions, ne sont définies à l'avance. La signification se construit à travers l'œuvre et elle n'est pas posée au départ et l'œuvre en serait une sorte d'explicitation, de représentation ou d'imitation. La forme se construit devant vous. La forme est une forme en formation. C'est pas une forme qui est définie à l'avance et dont vous avez plus ou moins le plan et vous pouvez vous repérer et dire ah voilà on arrive bientôt à la fin, on le sent. C'est une forme en formation et donc chaque pas en avant est une découverte, est une aventure et est un questionnement. C'est-à-dire que évidemment c'est une musique qui vous fait poser des questions. Pourquoi? Où va-t-on? Pourquoi on est venu de tel point? Pourquoi il fait ceci ou cela? Et c'est ce travail de l'écoute qui, évidemment, est un travail important, hein, et qui demande une attention considérable. Alors, j'aimerais la mettre un petit peu en œuvre dans deux pièces composées de façon assez différente, je trouve, ce qui montre deux attitudes différentes. Les poésies et Francesi d'abord, où il y a ces deux textes écrits en français par Rilke, tirés des quatrains valaisans, donc tout à fait bien opportun ici même. Et le premier, eh bien, va peut-être dire beaucoup plus simplement ce que j'ai très difficilement essayé de dire en voulant définir cette musique de Gervasoni. Puisque le premier vers, c'est « chemin qui ne mène nulle part ». Alors, on est tout de suite plongé dans la problématique de la forme dont je parlais, d'un discours musical qui ne nous conduit pas vers quelque chose, qui n'est pas simplement le prétexte à arriver quelque part et à pouvoir découvrir quelque chose. « Chemin qui ne mène nulle part, entre deux prés, que l'on dirait avec art, de leur but détourné. Chemin qui souvent n'ont devant eux rien d'autre en face que le pur espace et la saison. » On est dans un espace qui est totalement ouvert, comme vous voyez, qui n'est pas déterminé. Alors, évidemment, on comprend bien pourquoi Gervasoni a choisi ce poème parmi d'autres. Je voudrais vous faire entendre le début de ce poème, de cette pièce, simplement pour qu'on ait une appréhension globale. Et puis ensuite, je vais essayer, en sachant que je n'ai pas un public de musiciens professionnels, mais j'ai bien entendu ça, mais je vais essayer de vous montrer comment c'est conçu et ce qui devrait aider à savoir comment écouter. Alors, je vous fais... Ah, on est dans les cloches en même temps. Ah non, c'est pas ça. C'est le deuxième. Troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Oui, c'est le quatrième. Pardon. On va l'arrêter parce que les cloches n'arrangent pas beaucoup les choses, mais c'était pour avoir une idée. Donc vous avez déjà remarqué, c'est assez fort, mais ça me paraît très faible. Faudrait mettre un peu plus fort. Hein.
Je suis presque au maximum.
Il me semblait que c'était plus fort tout à l'heure. Ah, il y a un bruit. Bon, vous avez déjà remarqué que c'est c'est pas un son grandiose. Hein. Bon, c'est effectivement des pièces de musique de chambre. Les deux poésies de Rilke sont écrites pour une soprano, enfin une voix, parce que c'est pas tout à fait soprano, et flûte, clarinette, piano, percussion et un quatuor à cordes. Voilà, donc c'est une formation de chambre. Alors j'aimerais essayer de vous détailler ça, puis on va le réécouter évidemment après. Normalement, on devrait apparaître. Oui, voilà. La première page de la partition. Et je vous montre la partition non pas pour faire le grand spécialiste qui va vous parler des structures musicales, mais même si vous ne savez pas lire une partition, je pense qu'on peut, en visualisant, mieux entendre les différents événements. Vous avez remarqué qu'il y a une chose qui transparaît peut-être si je vous disais qu'est-ce qu'on a entendu. Vous diriez une espèce de petit mouvement comme ça, des fragments de gamme ascendante que vous allez entendre du début à la fin quasiment du morceau. Et ces gammes, ces fragments de gamme, elles sont jouées ici. Voilà, là vous avez un groupe de 3 qui est suivi d'un groupe de 4 notes, de nouveau un groupe de 3, ensuite un groupe de 4 notes. Et ensuite un groupe de 5 notes. Et on recommence. Un groupe de 3, un groupe de 4, un groupe de 3, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas un mouvement perpétuel, mais c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc il y a une petite irrégularité qui va créer quand même un mouvement à l'intérieur. Pourquoi ces sons sont écrits avec un drôle de losange au-dessus de la note? C'est pour indiquer que ce sont des sons harmonique joué sur les cordes, c'est-à-dire qu'on effleure une touche, la corde, à la carte du son fondamental, et ça va dégager non pas le son fondamental qu'on aurait si on appuyait sur la corde complètement, mais ça va dégager une harmonique de ce son qui est à la double octave, hein, donc qui est un son aigu. Mais aussi un son évidemment un peu dématérialisé, parce que c'est pas un son plein, puisque c'est une harmonique, c'est un son résultant. C'est que le son, je sais pas s'il faut que j'explique, mais vous pouvez me dire. Hein. Le son, dans la nature de acoustique des sons, est formé d'une fondamentale et de toute une série d'harmoniques qui va lui donner sa personnalité, sa couleur, son timbre. Hein, et donc les harmoniques d'un violon ne sont pas les mêmes que celles d'une flûte, que celles d'une clarinette, etc. Parce qu'à l'intérieur de tout ce spectre harmonique, vous avez des harmoniques privilégiées qui vont donner une certaine qualité de timbre au son. Alors là, on joue, c'est une chose qui est connue depuis des siècles, hein, on joue avec une harmonique du violon, donc des sons qui sont plus ténus, puisque c'est les sons résultants et pas la fondamentale qui, elle, aurait un son plein. Vous voyez que c'est noté avec deux P, pianissimo, donc très doux. Hein. Et je vais essayer de vous montrer comment cette petite figure est en fait compliquée par quelque chose qui est de même nature, mais légèrement différent, de sorte que ça va créer une espèce de petit brouillage. C'est ça qu'on pourrait appeler une vibration, hein, au sens large du terme. C'est ce que joue l'alto ici, que joue le violon ici, que joue à nouveau l'alto ici, et deux fois, et ensuite, le violoncelle, excusez-moi, et là l'alto, etc. Vous voyez que chaque petit groupe de trois ou de quatre sons en harmonique est accompagné d'une figure qui est légèrement différente, parce qu'on a une valeur longue, puis une valeur brève, une valeur longue, une valeur brève, une valeur longue, une valeur brève, bon, c'est systématique. Et en fait, les sons de cette deuxième voix, on va dire, reprennent les premiers et derniers sons de la figure qui est ici. Donc c'est ce qu'on appellerait une doublure, hein, il double simplement, il renforce. Sauf que quand il y en a trois, ça marche, mais quand il y en a quatre, ils partent sur le deuxième son du groupe et pas sur le premier, ce qui va créer un brouillage. De même, quand on a le groupe de cinq, on part sur toujours le deuxième. Et vous remarquerez que ces sons, qui sont aussi en harmonique, donc on a la même qualité de son, de timbre, c'est la même hauteur, mais il y a une petite indication, ponticello. Ça veut dire qu'on joue près du chevalet et que le son est encore plus dématérialisé puisqu'on perd encore de la substance du son pour avoir quelque chose de presque un peu métallique, un peu, donc un timbre légèrement différencié. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a une indication dynamique. On doit faire une sorte de crescendo. Donc, ce ne sera pas mais ce sera on aura un petit mouvement qui va se superposer à la série précédente. Et encore, un élément de brouillage qui sera l'indication portamento, c'est-à-dire on va de la première à la deuxième note en liant ta, non pas pam, pim, hein, par exemple, je prends n'importe quelle note, si bien que ça va parcourir presque comme un petit glissement les notes qui sont détaillées, papapapi, hein, dans la première voix. Alors vous voyez, déjà rien que ce petit module, qui est peu de choses, a priori, mais montre une richesse de relations, de connexions et de petits écarts qui vont créer la sonorité. Donc c'est ça que j'appelle une sonorité composée. Alors, à cela va s'ajouter les doublures que nous donneront les autres instruments. Par exemple, ici, le piano, qui joue, vous voyez, une note normale dans le registre aigu, qui est au niveau des harmoniques, et du violon, et ici, une note qui est elle-même en harmonique. Donc, deux qualités de timbre. Et quelle est la différence entre le piano et les autres? C'est que le piano est un instrument résonant. Donc, quand on a actionné la note, elle dure un petit moment. Dans l'aigu, elle ne dure pas très longtemps, mais elle dure un petit moment. Donc, il y aura un élément de tenue qui va se superposer et qui va encore différencier la structure que nous venons d'entendre ici. Alors voilà, ça vous fait trois éléments simultanés qui vont jouer ensemble. Je prends ce début tout simplement parce que voilà, je ne vais pas vous faire une analyse de la pièce, mais évidemment, ça permet, vous voyez tout de suite, la possibilité de travailler sur des modifications de ces trois couches de son. Et en effet, on verra par la suite que ces notes, comme celles du piano, seront utilisées pour reprises par la flûte, par exemple, ou le xylophone, ou l'instrument à percussion mélodique, et vont eux aussi redoubler certaines notes et créer un petit changement de la sonorité par leurs interventions. Et puis, tant qu'à faire, elles pourront peut-être jouer entre elles ces notes, et on aura, à partir d'un moment donné, ce qu'on appelle dans la musique des hoquetus, des hoquets, qui est une vieille technique du Moyen-Âge qu'on trouve aussi dans les civilisations extrême-orientales et chez les Esquimaux, où des gens à deux se jouent en quinconce. Hein. Voilà, ça donne une impression voilà, on a mis le terme de hoquet. Et au lieu de faire pa-pa-pa-pa, ce sera pa-pi-pa-pi, à deux instruments, si bien qu'on aura une petite évolution du timbre. Alors, vous voyez, c'est évidemment des éléments très minimalistes, hein. J'entends bien que pour les reconnaître analytiquement, c'est extrêmement difficile. Mais le but n'est pas de les reconnaître analytiquement. Le but, c'est de comprendre que la sonorité est constamment recomposé, se transforme, et d'être attentif à ces petites différenciations de couleurs, puisque une fois que vous avez compris que vous n'avez pas besoin de vous occuper des hauteurs de notes, il va rien de se passer, on n'aura pas on n'aura pas quelque chose qui aboutira à un résultat, mais qu'on est dans un mouvement qui tourne sur lui-même. Donc on peut se concentrer sur ces éléments de timbre. Voilà, alors c'est un petit exemple. L'autre exemple que vous entendrez par la suite, j'essaierai de vous le signaler au passage, c'est cette idée de la tenue. La résonance du piano ici, on va voir qu'elle correspond aussi à celle de la voix, à la présence de la voix, mais elle peut être travaillée pour elle-même. Alors à partir d'un moment donné, on aura le piccolo, parce que c'est le piccolo qui joue pas la flûte, mais le piccolo, on aura le piccolo qui tient une note, et puis un violon qui tient également une note. Si bien que au-dessus de ce mouvement perpétuel, vous aurez une sorte de brouillage par quelque chose, un tenuto, hein, qui va changer la texture, qui va changer le timbre. Voilà, donc quelques-uns des procédés qui peuvent apparaître et qui peuvent générer des espèces de petits motifs secondaires, parce que à un moment donné, le compositeur va donner aux instruments la dernière note d'un groupe et la première note de l'autre. Et ça fera un petit motif, padam, pidam, 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 qui devient un motif en soi, mais qui est tiré tout simplement de la structure disposée autrement. Oh, c'est pas très différent de ce que fait Bach dans ses inventions, et, à vrai dire, hein, c'est-à-dire prendre le même matériau et faire des combinatoires et des permutations. Voilà, alors deuxième couche, ça c'est la couche que vous entendez le plus clairement. Deuxième couche, évidemment, c'est la voix, hein, qui est importante. Et vous voyez que la voix va travailler de façon syllabique, va traiter le poème de façon syllabique, c'est-à-dire une syllabe pour une note. Et en fait, la voix va nous lire le texte de Rilke de façon extrêmement lente, on va dire, syllabe par syllabe, comme pour nous faire entrer à l'intérieur de chaque mot, de chaque syllabe, toujours dans la même idée que plus on se concentre sur un élément minimum et plus on va voir apparaître et plus on peut être sensible, attentif à des choses qui viennent de la vibration même de l'objet. Alors, ici on a « chemin », n'est-ce pas ? Et il faut regarder toujours les indications. Dans ce genre de musique, la note ne suffit pas. Vous voyez que la note glisse. Hein, donc tu... Voilà, on fera un mouvement qui est un mouvement ascendant, tout est ascendant pour l'instant, un mouvement ascendant qui, au lieu d'être note par note, hein, comme si on monte les marches d'un escalier, là, on glisse hein, directement, on fait tous les intermédiaires. Et puis, il y a un glissement aussi de la qualité de la voix. Oups, pardon, ça c'est très sensible, voilà. Vibrato au début, un vibrato normal, molto vibrato, donc la voix doit vibrer, et non vibrato à la fin, c'est-à-dire doit disparaître. Donc il y a à l'intérieur de cette petite chose une trajectoire, il y a un mouvement. De même qu'il y a le glissement, de même il y a ce mouvement du vibrato, et de même il y a le mouvement de la dynamique, en soufflet on va dire, on part de rien, on augmente vers une présence un peu substantielle du son, et on retombe à rien. Donc, vous voyez que c'est la note qui devient l'objet d'une histoire, qui est l'objet d'un mouvement. Le mouvement est dans la note, il n'est pas de la note A à la note B, il est à l'intérieur. Alors évidemment, il y a une deuxième note, et ce qui est amusant, c'est que vous avez quelque chose qui anticipe un mouvement de la pièce, un glissando, cette fois, descendant. Il a mis 6 millés, donc vous avez les mêmes éléments par-dessus. Et ce glissando descendant, c'est quelque chose qui anticipe un renversement du poème, un renversement du mouvement musical qui vient du poème, puisque dans le poème, à un moment donné, le Rilke dit entre deux prés que l'on dirait avec art de leur but détournés de leur but, hein, sans but, chemin qui vont nulle part, et prés détournés de leur but. Et ce détourné va être le signal, comme si le poète donnait une injonction au compositeur de réaliser le retournement. Et donc, on aura des figures descendantes qui vont commencer à intervenir de plus en plus dans la deuxième partie, dans le deuxième quatrain, mais qui sont anticipées ici, comme si déjà cette potentialité était présente et qu'elle allait se manifester un peu plus tard. Voilà, alors il me reste un élément à indiquer pour qu'on soit complet. D'ailleurs, il me reste un élément aussi lié à la voix, mais malheureusement, dans l'enregistrement qu'on a là, ou dans l'exécution, qui est de l'ensemble contre-champ, on ne l'entend pas. Mais vous voyez que les instrumentistes, quand la voix énonce une syllabe, ne jouent pas leur petite mécanique de gamme montante, papapapi, papapapapa, là, on se tait. C'est la même chose sur main, vous voyez que là, vous n'avez pas ces petits mouvements ascendants. Et les instrumentistes doivent chuchoter, et là, ils ont peut-être trop chuchoté, des syllabes. Alors, il y en a une qui reprend « che », mais « main qui ne mène ». Donc, vous allez aussi avoir ici un brouillage entre le « che » qui contient déjà « chemin qui ne mène ». Vous voyez, et vous aurez ça à chaque fois dans les interventions de la voix. Donc c'est une espèce de bruit qui va enrichir en fait la qualité acoustique de la voix. Voilà, donc vous voyez que vous avez beaucoup d'événements en très peu de temps en définitive. Et alors évidemment, comme ce sont des chemins qui ne mènent nulle part, la forme ne va pas vous conduire à un climax et ensuite à un épilogue, mais elle va être comme une espèce de rituel où on tourne sur soi-même, et pendant ce mouvement perpétuel, les choses se transforment constamment au point que à certains moments vous entendrez la deuxième voix qui redouble aux cordes disparaît, on a des pizzicato qui viennent à la place, ou on a les instruments avant percussion qui prennent un peu de la place, on a les notes tenues, on a toutes sortes de choses qui vont se passer, puis le renversement de la figure ascendante qui devient descendante, et tous ces petits événements vont faire le sens même de la pièce, en quelque sorte. Voilà, donc... oui, j'ai oublié quelque chose. Ah, j'ai oublié la clarinette basse, oui, c'est ça que je voulais dire encore. Oui.
Non, mais c'est pas par rapport à ce que tu dis, mais je voulais apporter un élément par rapport au grand poète, parce que... le fait que la musique s'arrête dès que la chanteuse dit une syllabe de Rilke, c'est quelque chose de significatif pour moi, parce que c'est comment dire, je mets en musique ce beau poème ou pas. Alors la réponse était, je ne mets pas en musique quand la chanteuse énonce les mots du poète, je le mets en musique tout de suite après, oui. Puis je m'arrête de nouveau. Voilà. Devant la nouvelle syllabe, et comme ça c'est systématique jusqu'à la fin.
D'accord. Oui.
Et voilà, donc c'était, je me suis posé le problème, quoi faire d'un très beau poème, et aussi c'est quoi la valeur qu'un compositeur pourrait apporter à de la poésie qui est déjà très musicale.
Bien sûr.
Comme tu disais tout à l'heure.
D'accord, oui. Très bonne remarque, monsieur le compositeur. Voilà, oui, alors ça me permettrait de mettre ça aussi dans un contexte, cette démarche. L'intégrité du poème, le respect vis-à-vis de la poésie, vis-à-vis de la sémantique du texte, parce que il y a eu, depuis les années 50, dans la musique contemporaine, beaucoup d'efforts pour renouveler la mise en musique des poèmes. Et très souvent, les compositeurs ont déconstruit, déstructuré les poèmes, notamment en prenant les éléments phonétiques tirés de la poésie pour en faire des liens avec les éléments purement sonores, et donc reconstruire quelque chose où le poème, en quelque sorte, est absorbé par la musique. C'est même une idée revendiquée par certains, comme Boulez, quand il parle du poème comme centre et absence de la musique, en reprenant d'ailleurs une phrase de Henri Michaux. Et quand on regarde, que ce soit dans Le marteau sans maître sur les poèmes de René Char, ou dans Pli selon pli sur les poèmes de Mallarmé, il opère toujours le même mouvement. À un moment donné, le poème est absorbé par la musique et on n'a qu'un vers ou qu'une bribe du poème, et la musique prend la continuité, comme si la musique s'était enrichie de l'apport du poème, mais s'imposer en tant que musique pure. De même, il n'y a pas évidemment d'éléments plus ornementaux où, à partir d'une syllabe, la musique elle-même peut faire des mouvements autonomes. Hein. Donc, il y a une très grande, dans toute la démarche de Gervasoni par rapport à la poésie, il y a toujours un très grand respect pour le poète et une tentative de, au fond, d'en donner tout simplement une lecture. Mais une lecture où, puisque la musique est quand même l'art, le sol, qui permet de fonctionner à la fois dans la verticale et dans l'horizontale, hein, de façon réelle. Enfin, tous les arts jouent sur ces deux dimensions, mais parfois comme résultante. Mais la musique existe verticalement et horizontalement. On a une profondeur qui est donnée par tout ce qui est harmonique. On a une continuité qui est donnée par toute l'horizontalité de l'écriture musicale. Donc la musique peut creuser véritablement un texte, peut lui donner justement des harmoniques supérieures ou des harmoniques inférieures. Et moi, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais j'aurais tendance à voir ces sons harmoniques qui occupent un registre assez élevé dans cette œuvre, à voir ça comme les harmoniques de la voix, hein, qui donnent l'impulsion, chant, et puis on aurait une construction qui est effectivement la mise en musique de cette voix. Alors j'ai oublié, d'ailleurs c'est une particularité de la musique de Stefano Gervasoni d'être souvent suspendue en l'air. Il y a très peu de basses dans sa musique, c'est-à-dire justement ce fondement qui a été si important dans notre civilisation, qui est la note sur laquelle repose l'édifice sonore. Souvent sa musique est suspendue en l'air, il n'y a pas d'élément dans le registre grave. En l'occurrence, le dernier élément que je voulais signaler, que j'ai failli oublier, c'est ce petit élément qui est donné par la clarinette basse ici, qui est aussi une toute petite chose, qui est une sorte d'impulsion jouée très très piano et en écho, hein, même déjà en écho du silence qui précède, on pourrait presque dire, que vous allez entendre très bien, une espèce de petite impulsion qui est dans le grave de la tessiture et qui est le seul élément grave qu'on entend dans la pièce. Tous les autres sons sont soit la voix dans le médium et les autres sont dans l'aigu ou l'extrême aigu. Et ce son de la clarinette basse va revenir comme une scansion tout au long du morceau, comme si elle nous comptait le temps, hein, en quelque sorte. C'est comme un repère. Alors ça, moi, ça m'évoque des musiques comme certaines musiques indonésiennes où on a, dans ces musiques de gamelan, où on a des grandes phrases interminables qui sont en boucle et on a de temps en temps un coup de gong ou de gros tambour qui vient faire une chose qui marque une espèce d'espace voilà, qui marque le temps, oui, on peut le dire comme ça. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous avez des sons graves du piano qui viennent renforcer, enfin, qui viennent prolonger ce son-là. Voilà, je ne sais pas si vous entendrez tout ça, mais l'important, en fait, n'est pas d'entendre ce que j'ai décrit. L'important, c'est de sentir comment il faudrait écouter idéalement. Et on se rend compte, dans ce genre de musique, que finalement, la première écoute est une reconnaissance et qu'il en faut au moins quelques-unes ensuite pour entrer vraiment dans la pièce. C'est peut-être une musique qui se prête bien à être écoutée chez soi, parce qu'on n'est pas dérangé par le public, et il n'y a pas de distance, on est dans le son. Mais plus on l'écoute, plus on entend. Et c'est quand même une qualité qui est importante, je trouve, chez un compositeur, parce qu'il y a des compositeurs, une fois qu'on a entendu une fois, on a tout compris. Et ça, c'est un
peu... Non, mais alors, j'ajoute encore une chose. C'est le rapport avec la poésie. Parce que ouais. La poésie, ça demande d'être lu,
Lu, bien sûr,
peut-être ouais. Pas connu dans le sens inverse. Donc moi, j'ai un peu pensé à ça et je trouve que c'est la proximité entre mon travail et le travail d'un poète, forcément délicat. J'attends cette façon d'écouter avec tout ouais. Qui est nécessaire.
Avec toutes les harmoniques supérieures et inférieures. On pourrait ajouter quelque chose là-dessus qui est cette fameuse analogie qu'on fait souvent entre la musique et le langage verbal. La musique est un langage. Voilà, j'ai essayé de vous montrer quelques éléments qui sont les mots, et quelques éléments de la grammaire de ce langage dans cette pièce. La musique est en effet un langage et qui est parallèle au langage verbal, et qui est comme lui une convention purement humaine, parce que la musique n'existe pas dans la nature en tant que musique telle qu'on la conçoit. Je sais bien qu'il y a le chant des oiseaux, et le chant des baleines, et etc., mais la musique en tant que telle n'a pas de répondant dans la réalité. Un do ne correspond à rien dans la réalité. De même que chemin ne correspond à rien dans la réalité à partir du temps qu'on n'a pas mis une convention que ça renvoie à quelque chose. Or, la musique n'a pas cette convention. Elle ne renvoie pas à quelque chose de précis. Elle est un pur phénomène de relation. C'est pour ça que je vous décrypte les relations. C'est pour vous montrer que composer, c'est mettre des sons en relation. C'est créer des relations entre les sons, hein, en définitive. Et cette analogie avec le langage verbal, elle est trompeuse parce que la vraie analogie, ce serait entre la musique et la poésie, pas entre la musique et le langage prosaïque de tous les jours, le langage que j'utilise. La poésie n'est pas un langage ordinaire, c'est un langage effectivement qui demande d'être décrypté. Plus les poètes sont complexes et plus la lecture fait apparaître des ambiguïtés, on se demande quel est le sens de ceci ou de cela, et on a besoin de lire, de relire, de lire lentement, etc. Et donc là, il y a une analogie véritable, et c'est la raison sans doute pourquoi les compositeurs et les poètes sont... des frères dans l'histoire de l'art. Alors, bon, assez parlé. Je vous fais écouter la pièce, je vais la mettre au maximum. Je ne pourrais pas aller plus loin, on n'a plus de cloche, c'est déjà ça. Tenue. Tenues qui vont arriver. Pizzicato. À détourner. Premier quatrain fini. Thank you. Voilà, le poème en entier. J'ai peur d'avoir un peu débordé, parce que je suis très bavard, non? Je sais pas quelle heure. On a le temps de. Non, mais on a le temps de voir un autre poème ou. Alors, le public. Ah, vous voulez que je m'arrête? Un autre. Alors, je saute le deuxième de ces douées poésies et qui met en place le mouvement inverse, puisque là, on aura des petites cellules descendantes qui étaient anticipées dans le premier, bien sûr, mais qui est un poème plus de la mélancolie, donc d'une certaine forme de plainte, de chute, de descente, voilà, qui fait l'équilibre de ces deux, de ce petit diptyque. Et je voudrais prendre un poème qui est tout à fait différent, dont on n'a pas trouvé de traduction française dans les différentes éditions. Comment je fais pour revenir dans ma page? Ah voilà, bon, c'est bon. Pardon. Alors, voilà, vous avez le poème, hein? Oui, c'est ça. Bon, en bricolant avec deux, trois choses, on a essayé de faire une... Monsieur Boschenstein, je vous en prie, pas de... Soyez indulgents pour la tentative de traduction. C'est un poème, enfin, comme tous les poèmes, qui est difficile à traduire. Voilà, qui met en scène... c'est assez intéressant aussi par rapport à ce que j'ai essayé de dire. On voit que au début, comme l'astre, j'ai mis sublime et déterminé, la lune brusquement surgit des hauteurs, la nuit projetée s'achevant sereinement. Voyez, ainsi monte en moi pure la voix jaillie des montagnes de ce qui n'est plus. Et les lieux hébétés où tu fus et auxquels tu échappas souffre plus clairement de toi. Alors, bon, j'espère que ce n'est pas trop loin de l'original. Vous êtes peut-être capable de lire l'allemand très bien, donc voilà, l'allemand est au-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est cette métaphore de la lune, évidemment, qui est un topos aussi chez Rilke et ailleurs, qui va permettre d'éclairer, au fond, d'un côté, cette lune qui va éclairer plus clairement, hein, les lieux où le personnage non nommé a été et dont il s'est enfui, et que finalement, cette montée de la lune est associée à la montée dans le sujet, Rilke, de cette voix qui vient du passé. Et de ce qui n'est plus. Et donc, vous avez là, effectivement, c'est intéressant de voir que ce n'est pas l'expression du sujet lui-même, mais c'est les lieux qui sont hébétés, ce n'est pas le poète, ce n'est pas le personnage qui dit « je suis saisi, je suis n'importe quoi hein. ». Mais ça vient à travers lui, en quelque sorte, avec cette idée... De faire en sorte que le dedans et le dehors, hein, comme Rilke le réclamait, soient constamment en échange, soient en symbiose. Alors là, Stefano Gervasoni a une autre stratégie et il va écrire une pièce qui est beaucoup plus minimaliste, on va dire. Alors toujours ce respect de la poésie. Je vais essayer de juste mettre la partition. Voilà, elle est là. Alors, hop, on va enlever ça, plein écran, et voilà, c'est là. Im Herbst, pardon. Donc, évidemment, l'automne. Et vous voyez que toute la première page, c'est la voix seule qui intervient. Et dans ce poème, il n'y aura que voix et violon. Alors, c'est un cycle qui utilise un trio à cordes, tout simplement, qui accompagne la chanteuse, mais souvent, ils ne jouent pas tous ensemble. Donc, voilà aussi une façon de détailler, de donner à chaque note une présence, hein, bien sûr, et en même temps, de créer une sorte de polyphonie à l'intérieur d'un élément monodique, en reprenant quelque chose qui, au fond, appartient à une longue histoire de la musique, de ces mélodies populaires dans lesquelles des éléments répétés vont créer des sortes de couches de polyphonie latente. Hein, c'est-à-dire, quand vous avez, je m'explique pour être plus clair, quand vous avez ré, fa, la, fa dièse, fa, la, fa dièse, la petite modification ré bémol, fa, la, fa dièse, ré, fa, la bémol, vous voyez qu'il y a des petites variantes, même si vous ne savez pas lire la musique, le nom des notes voilà, hein, sont les mêmes, et on voit qu'il y a comme un petit modèle qui peut être déformé, comme les gammes tout à l'heure, hein, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais ces gammes sont tout le temps un petit peu déformées. On ajoute un bémol, un dièse, on fait un quart de ton, etc., pour créer un petit mouvement à l'intérieur d'un modèle. Et ici, on peut avoir effectivement ré fa ou ré bémol fa, qui est une variante, hein, simplement. Alors, le fait que ces mêmes notes reviennent donne le sentiment qu'elles appartiennent à une voix qui serait interrompue notamment par ces notes longues ici, les mi, hein, et puis ensuite le si bémol mi, elle serait interrompue par une deuxième voix, comme quand on écoute les partitas de Bach pour violon sol, on a parfois des fugues jouées par un violoniste qui ne peut pas jouer quatre voix en même temps, mais qui va jouer alternativement les voix et de manière à ce qu'on reconstitue une espèce de polyphonie qui ne peut pas être présentée telle qu'elle. Voilà, donc ça c'est un premier aspect, et vous voyez que la fonction de cette note qui va être une espèce de repère tout au long du morceau, ce mi qui est ici, qu'on voit encore là, va nous dire de façon cachée un des mots clés, la lune, monte, par simplement chaque fois une lettre, hein, M, O, N, D, et finalement, plus rien, c'est-à-dire une respiration à l'envers, une inspiration, donc à l'envers, très ténue, hein, bien sûr. Et donc, le mot monte est déjà entrelacé avec lui-même dans cette première partie. Et vous voyez que chacune des notes, je ne vais pas trop insister, mais chacune des notes va être qualifiée. Ici, on a poco vibrato, ici, on a non vibrato, quasiment la bouche fermée. Ici, on a de nouveau poco vibrato, et ici, on va jusqu'à rien du tout. Bon, etc. Ensuite, cette note est en écho. Voilà, bon, etc. On a à chaque fois beaucoup d'indications qui vont qualifier chacune des notes. Et puis, oups, voilà. On a, alors, bon, il faudrait faire la jonction, c'est embêtant. Elle se fait justement sur le passage, à l'autre page. On a en effet des notes qui vont être mises en valeur par le fait qu'elles sont tenues longuement et dans un registre plus aigu, le monte dont on a parlé, donc le si bémol qui retombe sur le mi, ici nart sur sol, et ici une note aussi qui arrive dans un mouvement ascendant, hun, la hauteur. Et ce mi que vous avez entendu comme note repère, je descends d'une page, va être repris, c'est une mutation supplémentaire, après le M, O, N, D, inspiré, vous avez le mi au violon comme un souffle, hein, comme une respiration, avec beaucoup de crin, pression de l'archet, donc toutes ces indications sont données pour obtenir un son particulier, qui nous met d'ailleurs à... Enfin, bon, non, je ne vais pas dire ça, c'est pas la peine. Voilà, et vous avez à ce moment-là deux voix. Le violon va accompagner, en reprenant d'ailleurs les notes clés de tout à l'heure, va accompagner la voix, donc on aura un duo, hein, en quelque sorte. Et je vous rends attentif aussi à ces sons aigus, qui sont toujours des sons extrêmement purs, là, de nouveau un son harmonique. Et puis, dans la dernière partie de la pièce, qui est, on pourrait dire, en trois parties, c'est-à-dire ici, on va avoir une espèce de chorale, c'est-à-dire que les deux voix sont synchronisées, presque synchronisées, pas tout à fait, mais elles font les sons en même temps, avec des couleurs complètement différentes, et que le violoniste doit constamment changer de qualité de son. Ici, sul tasto, la moitié de l'archet, ici, molto vibrato, ici, sur le ponticello, ce que je disais tout à l'heure, ici, pizzicato, etc. Donc, on a une grande variété de couleurs, Et en fait, si on regarde bien les notes, on est presque dans un mouvement contraire, donc vraiment un mouvement parallèle qui va se terminer par une de ces notes aiguës qui est comme une ultime résonance, la note la plus haute d'ailleurs, puisque on évoquait la montée de la lune, les hauteurs, les montagnes de ce qui n'est plus. Et je vous rends attentif encore à ce mi qui termine la deuxième partie, ce pizzicato qui est encore un autre mi, une autre qualité de mi. Hein, donc on aura tout au long du morceau. Donc voilà un morceau très très simple, hein, si vous voulez, très minimal, mais qui nous permet aussi d'entrer à l'intérieur du texte. Alors je vais vous le faire entendre, peut-être pour achever cette conférence. Voilà.
Thank you.
On l'entend pas. Hein ? Il a raté le do dièse. Ah bon, oui, alors vous voyez, c'est des surprises que nous font les interprètes. Donc on l'a imaginé. Juste petite indication, j'ai oublié de vous le signaler, cet ultime mi ici, pizzicato Bartok, c'est un pizzicato inventé par Bartok où on fait claquer la corde de l'instrument à corde sur le bois du manche, hein, ce qui permet de donner un effet percussif. Oui, mais j'explique en quoi ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas. Bon, je crois que ça suffit. Hein. Il y a peut-être des questions.
On m'a posé hier la question si j'avais lu tout de Rilke. Et puis j'étais très surprise à cette question, je ne savais pas quoi répondre. Et je crois que c'est comme avec votre musique, on lit et on découvre toujours quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que je vous remercie tous les deux d'être venus.